Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Devant la beauté, la splendeur, la pureté rayonnante de la Vierge Immaculée, on se sent tout petit, tout gauche, tout sale, et on ne sait pas par où commencer pour louer une si grande reine. Mais les circonstances s'imposent à nous, et les circonstances, vous les connaissez bien, nous sommes dans un monde qui s'écroule. De tous côtés, dans la société, dans notre pauvre France, et jusque dans la Sainte Église, ce ne sont que ruines, désolations, menaces de guerre et de mort. Et en nous-mêmes, dans nos propres vies et dans nos familles, quelle fragilité, quelle difficulté pour bâtir du solide. Je ne veux pas m'étendre, parce que vous savez tout ça mieux que moi, d'une part, et puis aussi, je ne veux pas ternir la joie d'une si belle fête. Je veux au contraire montrer comment, dès l'origine et pendant tous les âges de l'humanité, l'Immaculée Conception a été l'étendard de la grande espérance. Et d'abord, qu'est-ce qu'un étendard, mes frères, sinon le drapeau qui flotte à la tête de l'armée, qui rassemble les troupes avant le combat et qui les mène à la victoire? Or, à trois reprises et de trois façons différentes durant les trois grands âges de l'humanité, l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie a été cet étendard. Elle l'a été avant la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, elle l'a été pendant la vie de notre Sauveur Jésus-Christ, et elle l'est encore maintenant, durant la vie de l'Église, qui n'est autre que Jésus-Christ continué et répandu. Et d'abord, ouvrez la Sainte Écriture, ouvrez précisément le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Pas besoin d'aller très loin, là, dès les toutes premières pages, au troisième chapitre, lorsque les ténèbres de la mort descendent sur l'humanité après le péché de nos premiers parents, immédiatement, une lueur d'espérance commence à luire. Une femme avec son fils qui, ensemble, écraseront la tête du serpent. Vous connaissez bien la scène. Le serpent, c'est-à-dire le démon, a convaincu Adam et Ève de se révolter contre Dieu. « Vous ne mourrez pas, » leur a-t-il dit. « au contraire, vous deviendrez comme des dieux. » Et bêtement, le premier homme et la première femme ont écouté ces sornettes. Et Adam, chef de l'humanité, a entraîné tous les hommes dans sa chute. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Or, à ce moment, juste à ce moment, Dieu annonce au serpent qu'il y aura une revanche. Oui, il a réussi dans une première manche à vaincre l'humanité, à la précipiter dans le péché et dans la mort. Mais ça n'est pas définitif. Et Dieu annonce au serpent « Je mettrai une inimitié, c'est-à-dire une guerre, un combat, entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » Tu voudras la mordre au talon et elle t'écrasera la tête. » Cette première prophétie est encore bien vague. Vous n'y trouvez ni le nom de Jésus, ni celui de Marie. Vous n'y trouvez pas le mot « conception », ni celui « immaculé ». Et c'est ce qui permet aujourd'hui à certains protestants de protester contre l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge en disant qu'elle n'est pas dans la Bible. Mais si nous regardons non pas seulement les mots, mais la chose, qu'y a-t-il donc dans ce tableau? Dieu annonce au serpent qu'il n'a pas vaincu de façon définitive, il y aura une revanche. Et pour décrire cette revanche, Dieu met d'abord en avant une femme. « Je mettrai une inimitié entre toi, toi le serpent, et la femme. » La femme ne sera pas seule, c'est sa descendance, son fils, qui vaincra définitivement le serpent. Mais la revanche commence avec elle. C'est elle que la prophétie met d'abord en avant. C'est elle d'abord qui sera l'ennemi du démon. Et remarquez que cela n'est pas annoncé n'importe quand. C'est au moment même où Dieu rend sa sentence à propos du premier péché. Qu'est-ce que cela signifie? Sinon que cette femme, elle, échappera au péché originel, échappera au démon avant même de donner naissance au Sauveur. Dès l'aurore de l'humanité, juste après le péché, c'est bien l'Immaculée qui est donnée comme grand signe d'espérance. Elle est présentée comme la puissante ennemie du démon, celle qui n'en a jamais été complice, pas même un instant. Et plus tard, des prophètes annonceront ses autres titres de gloire. Isaïe proclame qu'elle sera à la fois mère et vierge, et même qu'elle enfantera l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et vous me direz peut-être, mais c'est là le plus important, le premier titre de Marie, le plus fondamental, c'est avant même d'être immaculée, c'est d'être mère de Dieu. Oui, c'est vrai, en soi, c'est le plus important. Mais de fait, pour nous autres, pauvres humains, tombés dans le péché, prisonniers du péché de génération en génération, Marie apparaît d'abord comme la grande ennemie du serpent, celle qui ne lui a jamais été soumise en rien, c'est-à-dire comme l'Immaculée. Et on peut vraiment dire que dès la sortie du paradis terrestre, c'est cette bannière de l'Immaculée qui est ainsi dressé pour entraîner vers le Sauveur ce long pèlerinage humain qui durera plusieurs millénaires. Mais ce n'est pas tout, il faut aller plus loin. Non seulement le mystère de l'Immaculée a été le premier révélé aux hommes, mais c'est vraiment de fait la plus belle victoire de notre Sauveur. Pourquoi Jésus est-il venu ? Sinon pour libérer les hommes du péché et leur communiquer cette vie divine qu'on appelle la grâce. Or, tirer les hommes de la boue où ils se sont enlisés, les laver, les embellir, c'est bien. Mais comme dit le proverbe, mieux vaut prévenir que guérir. Et si notre Seigneur a voulu se montrer un médecin parfaitement complet, soignant avec art toutes les sortes de maladies morales, il convenait que, dans un cas au moins, il réalise cette guérison préventive de l'âme qu'on appelle Immaculée Conception. C'est le chef-d'œuvre de la grâce, le chef-d'œuvre de la rédemption. Et notre Seigneur a voulu le réaliser avant même son incarnation dans l'âme de sa très sainte mère, comme s'il voulait, durant sa vie, l'avoir toujours devant les yeux. Et comme s'il voulait ne marcher qu'à la suite de ce glorieux étendard qui proclamait partout sa victoire avant même qu'il n'arrivât. L'Immaculée a donc été l'étendard de l'espérance dès la chute de nos premiers parents, l'étendard de la victoire sous les yeux même de notre Sauveur. Et il faut ajouter que l'Immaculée Conception a aussi été choisie comme l'étendard de la lutte contre les erreurs modernes par le glorieux pape Pie IX. C'était en 1854. Pie IX était effrayé déjà par la montée de l'impiété moderne. Grisé par les progrès scientifiques, mais surtout drogué par la propagande maçonnique, l'homme retombait dans sa vieille illusion devenir Dieu par ses propres forces. C'était vrai au XIXe, ça l'est encore au XXIe, plus que jamais, mes frères, c'est le rêve maintenant des grands gourous de l'informatique qui veulent fabriquer une sorte d'homme tout-puissant et immortel qui, grâce à toutes les technologies, sera le maître absolu de la nature et de la matière. On remarque que plus ce rêve se répand, plus dans la réalité l'homme est détraqué, abîmé, déprimé, détruit. Plus l'homme se prend pour Dieu, plus dans la réalité il s'animalise. Et surtout, plus il se soumet au pouvoir du serpent qui l'entraîne en enfer. car vous l'avez reconnu, le vieux slogan du serpent, « Mais non, vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux, grâce à l'arbre de la science. » Il y a aujourd'hui des gens, mes frères, pour dire que les récits de la Bible et de la Genèse ne sont que des légendes. Mais ce sont les mêmes qui rejouent devant nos yeux exactement les scènes qui y sont décrites. Ils voudraient en prouver la véracité qu'ils ne pourraient pas mieux faire. Car non seulement le péché d'Adam est un fait historique, mais il est une réalité profondément inscrite dans le cœur des hommes. S'ils ne sont pas guéris par la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ, les hommes, comme l'a fait Adam, tendent à s'adorer eux-mêmes, se prenant pour des dieux, maîtres du bien et du mal, avant de découvrir, mais trop tard, qu'ils ont été joués par le serpent et menés vers la mort éternelle. Et c'est ce que Pie IX voulait dénoncer dès 1854. Avec des cardinaux, des théologiens, il commença à préparer un document sur les erreurs modernes. La préparation prit plus de 10 ans. Mais le pape se rendait bien compte qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'erreur, parce que ça n'était plus seulement le serpent qu'il fallait combattre, c'était le dragon, le grand dragon décrit par saint Jean dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Et de même qu'il y a dans le premier livre, la Genèse, le combat de la femme et du serpent, il y a dans le dernier livre, l'Apocalypse, au chapitre 12, un grand combat dans le ciel entre un dragon et une femme couronnée d'étoiles. Ce dragon tient toujours le discours du serpent. « Vous serez comme des dieux. » Mais cette bête est beaucoup plus puissante, comme une organisation mondiale étendant ses réseaux sur toute la terre, bénéficiant de puissants haut-parleurs et d'une puissance de tromperie véritablement effrayante. Et face à cette bête, Pie IX comprit que sa parole de pape ne serait pas suffisante. Il fallait l'aide de la femme, l'aide de l'Immaculée. Et c'est ainsi que la bannière de l'Immaculée fut brandie une troisième fois sous les yeux de l'humanité. Elle avait été brandie devant nos premiers parents, brandie par notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, c'est le pape qui, en 1854, décida de promulguer solennellement ce dogme, tout en expliquant le jour même aux cardinaux qu'il le faisait pour demander l'aide de la puissante Vierge contre les erreurs modernes. Le document dont je vous ai parlé, dont la préparation dura 10 ans, fut promulgué 10 ans après, pour le 10e anniversaire de la promulgation du dogme, le 8 décembre 1864, et il porte le nom de Syllabus. Évidemment, mes frères, la lutte n'est pas terminée, mais plus que jamais, en cette fête, rangeons-nous, nous-mêmes, nos familles et tous les petits groupements dont nous pouvons nous occuper derrière cette bannière qui a été brandie 3 fois et qui, c'est sûr, même si tout semble s'écrouler autour de nous, c'est sûr, nous protégera et nous mènera à la victoire. Nous allons la suivre, cette bannière, pendant une procession dans quelques instants. Rappelons-nous que c'est un grand signe d'espérance. Rappelons-nous également que la Sainte Vierge, si elle écrase la tête du démon, si elle est forte comme une armée rangée en bataille, est aussi bonne comme une mère, car elle est notre mère. Et elle est venue se manifester plusieurs fois en France pour nous dire, notamment comme à Pontmain, « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. » Donc, prions, confions-nous à la Vierge, sachant que nous vivons en des temps difficiles, que nous aussi, nous pouvons nous laisser tromper par le dragon, surtout à l'heure où même des autorités de l'Église se laissent tromper. Soyons sous nos gardes, mais en même temps, confions-nous avec une véritable confiance filiale dans la très sainte Vierge Marie. Prions-la, que cette procession ne soit pas simplement une marche, mais vraiment une prière. Confions-nous à elle et demandons-lui sa protection. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.